Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi nous avons tous œuvre conversée, autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et les pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme aussi les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Nous lirons d'autres passages. L'intelligence de l'homme lui accorde la possibilité de découvrir beaucoup de choses. Ses capacités le conduisent à sonder, à rechercher. Mais la foi s'empare des déclarations divines, se les approprie avec reconnaissance et pour son profit. Elle découvre, considère et jouit de déclarations de révélation que l'homme naturel, en dépit de toutes ses facultés, ne saurait percevoir. Ce qui appartient aux choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents. Nous aimerions simplement évoquer quelques passages pour notre encouragement qui soulignent ce que nous étions dans le passé, par nature, ce que la grâce de Dieu a fait non seulement pour nous, mais de nous, par la foi, moyennant la nouvelle naissance, et ce que cette même grâce fera dans le futur. La parole de Dieu nous révèle aussi bien le passé, le présent que l'avenir. Dans la nature, nous savons bien qu'il faut monter sur des cimes, sur des sommets, pour percevoir et réaliser la profondeur des vallées. Nous ne nous en rendons pas compte lorsque nous nous y trouvons. Nous avons une expérience spirituelle, bien sûr, combien précieuse dans cet épître, et dans ce premier chapitre, ces premiers versets, où nous sommes amenés, on peut dire, au plus haut sommet, que la grâce offre à la foi, puisque nous sommes considérés comme étant assis dans les lieux célestes en Christ. Pourrions-nous être plus élevés? Identifiés à celui qui occupe cette place haute élevée. Mais c'est là que nous pouvons mieux mesurer et comprendre, dans la jouissance d'une telle grâce qui nous est accordée, la profondeur de l'abîme dans lequel nous étions et duquel la grâce nous a retirés. C'est ce que traduisent au nombre de bien d'autres passages les versets qui commencent le second chapitre de cet épître aux Éphésiens. Vous étiez morts, sans relation de vie véritablement avec le Dieu vivant. Un état de mort spirituelle, sans relation vitale, et dans un état de culpabilité, de surcroît, mort dans vos fautes et dans vos péchés. Il est frappant de voir avec quelle précision, mais quelle solennité, l'état de l'homme naturel est dénoncé par la parole. Et c'est bien ce à l'égard de quoi l'homme est appelé à réaliser ce qu'il est et à accepter l'appréciation de Dieu à son endroit quant à son état naturel. Mort dans vos péchés, nous étions des fils de désobéissance, en quelque sorte actifs, dans une sphère, dans une scène, duquel le péché est l'ennemi œuvre. Nous étions des enfants de colère, par nature des enfants de colère. Remarquons, non seulement des enfants de colère, mais nous l'étions par nature. C'est là notre condition. Et bien des passages dans la parole traduisent cet état de culpabilité, cet état de perdition, cet état de péché dans lequel nous étions. Loin de Dieu, sans vie, sans la moindre inclination vers Dieu. Et c'est là que la grâce est intervenue. Nous connaissons bien le développement de l'enseignement de l'apôtre dans l'Épître aux Romains et dans d'autres portions des Écritures qui témoignent de cet état dans lequel nous étions et à l'égard duquel Dieu n'est pas resté insensible. Serions-nous condamnés parce que nous sommes des pécheurs? La nature de péché fait appel au juste jugement de Dieu. Mais l'homme ne sera certainement pas seulement condamné parce qu'il a une nature pécheresse, mais parce qu'il refuse le moyen d'en être libéré. Parce qu'il refuse, décline volontairement et sciemment, il décline les ressources de la grâce. C'est là le péché à l'égard des ressources insondables de l'amour divin, à l'égard de Christ lui-même, qui nous apporte de la part de Dieu le moyen de ça. L'Épître aux Colossiens nous dit que nous étions des ennemis dans notre entendement, ce qui semble bien souligner que nous ne sommes pas irresponsables, mais il y a une volonté même, il y a une nature consciente, ennemie dans notre entendement. Et nous avons œuvré en cela, nous avons conversé autrefois dans les convoitises de notre chair. Nous connaissons bien ces trois natures de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces trois aspects de la convoitise dans lesquels le premier homme est déjà tombé. Mais ce n'est pas sur cet état que nous désirons nous entretenir seulement, mais combien il est beau de voir que, après l'évocation, après le rappel d'une telle condition, nous avons un de ces nombreux « mais » qui introduit alors l'intervention de la grâce. Il est très beau de rechercher et de considérer avec attention ces « mais » dans la parole. Mais Dieu, qui donc, qui d'autre pouvait intervenir dans une telle condition. Le vase a été gâté. Nous connaissons bien cette figure de Jérémie 18, où le prophète est appelé à descendre dans la maison du potier et constater que l'ouvrage, le vase que le potier faisait sur son tour, a été gâté. Va-t-il réparer le vase? Il nous est dit, il en fit un autre vase, comme il plut au potier de le faire. Dieu ne peut pas réparer. L'état de l'homme est irréparable. Son cœur est désespérément mauvais et malin. Il ne saurait être amélioré, en dépit de tant de prédications selon lesquelles on nous dit que le fond de l'homme est bon et qu'il faut le cultiver. Il est irréparable. Le vase fut gâté, il faut faire un autre vase. Un vase qui correspond aux saintes exigences du divin potier, un vase qui est le résultat de son propre travail sur le tour de la grâce. Finissons-en avec l'homme dont le souffle est dans ses narines. Alors Dieu intervient, mais Dieu, selon les immenses richesses de cette grâce, riche en miséricorde, et quel est le levier de l'intervention divine, de l'intervention de Dieu, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut répondre à une telle condition, l'amour, la grâce, qui qui ont été déployés et démontrés dans une glorieuse plénitude dans le don et l'œuvre de Christ à la croix. Le don du Fils de son amour. Il nous a aimés alors que nous étions morts, alors que nous étions dans une condition qui ne faisait, quant à cette condition-là, aucun, qui ne fournissait aucun motif, aucun mobile d'être aimé. Mais l'amour de Dieu ne cherche pas un motif dans l'homme pour se déployer. La source de l'amour est en lui-même, c'est l'essence même de Dieu. Nous avons souvent dans la parole des mentions de ces mais. On a les mais qui sont heureux, qui sont favorables, qui démontrent précisément, comme dans ce passage, cette intervention de la puissance de l'amour, des ressources de l'amour qui change la condition. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous connaissons ces passages tels que l'Épiphratite, lorsqu'il nous a dit « Mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour sont apparus, il nous sauva. » Et cela non sur le principe d'œuvres accomplies. On pourrait en citer beaucoup de ces mais. Mais il y a aussi des mais positifs. Mais il y a aussi les mais qui sont à la responsabilité de l'homme et qui jalonnent tristement, douloureusement aussi l'Écriture. Quand nous pensons à une vie telle qu'un Salomon qui a été comblé de toutes les faveurs les plus précieuses, outre l'intelligence, les capacités, il lui a été donné la gloire, il lui a été donné les biens, il a été comblé comme personne. Que nous dit le chapitre 11 du livre des Rois, mais Salomon, pour nous déclarer qu'il est tombé, lui, le grand Salomon, dans les péchés à l'égard desquels il l'a mis en garde comme personne d'autre. Quel lamentable mais. Les mais qui appartiennent à la grâce sont dignes de louange. Ils sont au niveau des ressources de l'amour divin. Les mais que nous trouvons souvent en rapport avec ce que l'homme démontre alors que le cœur de l'homme est ce qu'il est. Nous avons ce mais à la vie de Salomon qui est peut-être l'un des plus éloquents de l'Écriture et qui nous démontre que ni l'intelligence, ni la connaissance, ni l'âge avancé, ni les expériences faites ne nous mettent à l'abri. Il n'y a certainement personne qui a eu une sagesse comme Salomon, la parole le dit, plus qu'Étam, plus qu'Eban, ses auteurs des psaumes 88 et 89. Un homme qui a écrit surtout. Or, il n'a pas puisé cette sagesse dans les dictionnaires. La grâce de Dieu l'a comblé de capacités exceptionnelles. Il l'a comblé de faveurs, d'honneur et de bien. Mais quant à l'état pratique, rien n'est acquis. Et il est frappant de voir que la connaissance et l'âge avancé, puisqu'il nous est dit, il arriva au jour de la vieillesse de Salomon, ces choses ne nous mettent pas à l'abri. Nous sommes et demeurons exposés jusqu'au dernier pas de notre vie. On pense à ce mais de l'histoire d'Acan, au chapitre 7 du livre des Juges, qui trouve comme un écho dans le chapitre 5 du livre des Actes, où après qu'on ait respiré dans les premiers chapitres du livre des Actes, on peut dire la fraîcheur printanière, l'atmosphère si pure des premiers jours de l'Église, elle est altérée par l'évocation de ce mais qui a introduit les péchés d'Anania et Saphira au chapitre 5 du livre des Actes. Quand on pense à ces Éphésiens qui ont été comblés, amenés par l'enseignement de l'apôtre à la communication des vérités particulièrement élevées, les appelant par cela à la jouissance de ce que la grâce de Dieu a fait d'eux, les amenant, les faisant asseoir dans les lieux célestes en Christ. Que peut dire cette courte épître qui commence ces chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, où ses œuvres, son travail, sa patience sont encore évoquées dans cette lettre à l'adresse de cette église privilégiée qu'était celle d'Éphèse, remarquons la différence en rapport avec ce qu'a dit les Thessaloniciens quant à ces trois mêmes vertus. Mais qu'a-t-il dit? Mais que tu as abandonné ton premier amour. Deux catégories de mais si distinctes, si différentes. Le mais qui introduit les ressources de la grâce et ce mais qui traduit à mesure dans laquelle nous sommes vulnérables et fragiles quant à l'état pratique. Mais nous aimerions évoquer quelques pensées en rapport avec ce que nous sommes maintenant. Nous venons de lire ce que nous étions. Ce n'est pas un tableau brillant qui est de nature à produire l'orgueil dans nos cœurs. Nous n'avons pas de quoi nous glorifier. Mais, comme le dit l'apôtre, c'est dans le Seigneur que nous pouvons nous glorifier avec louange et reconnaissance. Le passé nous est donc décrit. L'avenir nous est annoncé. Mais entre deux, il y a tout ce que la grâce de Dieu nous dispense maintenant. Et nous n'avons ni la capacité, ni le temps d'évoquer toutes les mentions que nous donne la parole quant à ce que nous sommes maintenant. Mais nous n'en citons que quelques-uns qui sont de nature à nous encourager, car nous sommes peut-être exposés à regarder à ce que nous sommes quant à notre nature, l'homme naturel qui n'a pas subi d'amélioration par la conversion, et peut-être cela nous conduit à quelques découragements. Nous sommes bien sûr et heureusement appelés à fixer nos regards sur les choses à venir. Nous attendons le Seigneur et tout ce qui en résultera en bénédiction céleste et inaltérable. Mais il est précieux aussi de fixer quelque peu nos regards sur ce que la grâce de Dieu fait des siens maintenant. Il est a priori utile de rappeler que le maintenant est le moment de la grâce, le moment dans lequel les ressources de l'amour divin sont à la disposition de l'homme. Nous connaissons bien ce passage des Actes au chapitre 17, lorsqu'il est dit « C'est maintenant que Dieu ordonne à tous les hommes en tout lieu qu'ils se repentent. » C'est le maintenant de l'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, pouvait-il être dit en Josué, afin de faire venir aujourd'hui une bénédiction sur vous. Remarquons que Dieu est pressé de bénir. Consacrez-vous aujourd'hui pour faire venir aujourd'hui une bénédiction sur vous. Alors que s'il y a désobéissance, que dit le même livre, si aujourd'hui vous vous rebellez contre l'Éternel, demain il sera courroucé contre vous. Il est très beau de voir que pour bénir, il n'y a pas de délai. Mais pour sévir, Dieu donne encore, en quelque sorte, en figure, une nuit pour se repentir. Dieu ordonne aujourd'hui à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se repentent. C'est maintenant qu'il leur ordonne cela. Ce n'est pas pour le futur. L'apôtre écrivant aux Corinthiens peut leur dire aussi, c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps agréable. Mais pour la foi, pour qui a reçu par la nouvelle naissance, s'est emparé de ces bénédictions qui sont liées à l'œuvre de Christ et qui en résultent présentement et pour l'éternité, il lui est accordé des privilèges, une position, des faveurs, des titres, desquels il peut jouir maintenant. Pensons au chapitre 5, déjà ce chapitre 2 des Éphésiens, où il nous est dit, au verset 13, « Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix. » Bientôt, nous serons auprès du Seigneur. Bientôt, nous serons introduits dans la maison du Père pour occuper la place qu'il a payée, qu'il a acquise. Nous n'occupons pas encore. Nous ne sommes pas encore introduits dans la maison du Père, mais nous sommes déjà maintenant approchés. Nous étions loin, nous sommes maintenant approchés. Nous n'attendons pas le moment de la venue du Seigneur et ce qui y fera suite pour être approchés. Quelle grâce de savoir que nous sommes introduits dans cette proximité. Nous étions loin. Maintenant, dans le Christ Jésus, comment pourrions-nous être approchés ou nous approcher par nous-mêmes? Mais dans le Christ Jésus, étant rendus agréables dans le bien-aimé, nous sommes approchés. Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous avez été approchés. Et quel est le moyen? Le sang de Christ. Y a-t-il un autre moyen pour s'approcher de Dieu? Y a-t-il une autre voie d'accès pour être rendus agréables en lui devant Dieu, si ce n'est le sang de Christ? Et nous connaissons bien ce passage de l'Épître aux Hébreux qu'on aime à lire à l'heure du culte. Ayant donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, par quel chemin? Un chemin qui, jadis, eût été de mort pour celui qui l'aurait emprunté et qui aurait pénétré dans le sanctuaire. Mais maintenant, un chemin nouveau, un chemin de vie. Et par quelle voie? Le sang de Christ. Par le sang de Christ, nous sommes approchés. Nous n'avons pas d'autre moyen, nous n'avons pas d'autre valeur à faire valoir, on peut dire, devant Dieu, qui reconnaît la valeur du sang de Christ. Et en lui et par lui, nous sommes maintenant déjà approchés dans le Seigneur, parce que c'est lui qui a fait la paix, c'est lui qui est notre paix, et c'est lui qui l'a payée par le sang de sa croix. La quittance de notre dette, c'est le sang de Christ. Nous sommes maintenant approchés. Si on va un peu plus loin dans la même épître, au chapitre 5e, au verset 8, « Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Il est frappant de constater que si d'une part nous étions dans les ténèbres, il est vrai que la vraie lumière est en Christ lui-même. En dehors de lui, il n'y a que ténèbres. Et nous étions dans une scène ténébreuse qui caractérise ce monde. Il n'y a pas de lumière en dehors de celui qui en est la source. Mais non seulement dans les ténèbres, mais nous étions ténèbres, soulignons le passage. Vous qui, vous étiez autrefois ténèbres, c'était notre nature même absente de toute lumière, sans relation avec la source de lumière. Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant, nous avons certainement été introduits dans la lumière, et quelle grâce! Mais remarquons qu'il dit, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. Changement de nature, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Conséquence, marchez donc de telle manière qu'une manifestation soit donnée de la nature à laquelle, par grâce, vous participez. Vous êtes maintenant telle lumière dans le Seigneur, pas lumière en dehors de lui. Marchez donc comme telle. Nous pensons à d'autres passages. Il y en a beaucoup par l'Épître aux Romains, par exemple. Aucune prétention à évoquer tout le passage. Épître aux Romains au chapitre 5, au verset 8e. Dieu met, c'est encore un de ces merveilleux, mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Maintenant justifiés par son sang. Nous n'attendons pas d'être glorifiés pour être justifiés. Pour être gracié, il faut se reconnaître coupable. Pour être justifié également, nous étions des injustes. Mais attendons-nous d'être rendus semblables au Seigneur pour être justifiés? Nous le sommes maintenant. Et encore, par quel moyen? Par le sang de Christ. Quel accent merveilleux que met l'Esprit sur l'efficacité, la valeur inaltérable que Dieu reconnaît du sang de son Fils. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifié par son sang. Dieu est juste, nous dit l'Écriture, en justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Cette justice à laquelle même le Seigneur fait appel en disant dans sa prière de Jean 17, Père juste. Et Dieu est juste à l'égard de Christ. Dieu a glorifié son Fils, il l'a ressuscité par sa propre gloire, il l'a fait asseoir à sa droite, il l'a haut élevé, mettant par cela un sceau sur l'efficacité de son œuvre et sur la valeur de son sang. Comment donc ne reconnaîtrait-il pas ceux qui fondent toute leur foi et leur certitude en lui-même et dans son œuvre? Dieu est juste à l'égard de Christ, en déclarant juste, en reconnaissant juste ceux qui sont de la foi de son Fils. Et nous sommes maintenant justifiés par son sang. Quelle sécurité! On ne peut pas jouir des choses dont on n'est pas sûr. On ne peut pas jouir non plus des choses. Et tel est le partage de la foi. La foi s'empare de certitude. Et la grâce de Dieu donne aux rachetés ses certitudes. Il n'y a pas de peut-être. Si David a pu dire en son temps, intercédant pour le peuple terrestre de Dieu, peut-être ferai-je propitiation pour lui. Il n'y a pas de peut-être en rapport avec Christ et l'efficacité de son œuvre. Mais la foi s'empare de certitude. Nous parlons, la parole évoque si fréquemment, en rapport avec la venue du Seigneur, objet de notre attente, d'une espérance. Mais cette espérance, ce terme d'espérance, nous savons bien, ne saurait dans aucun cas traduire la pensée d'incertitude. Puisque la parole elle-même nous explique en nous disant ce qu'un homme a, comment pourrait-il encore l'espérer? L'espérance revêtant le caractère lié au fait qu'elle n'a pas encore trouvé sa réalisation. Mais l'évocation de l'espérance ne saurait en aucun cas évoquer la pensée du doute. Ce même doute était absent dans la foi d'un Abraham, duquel il nous est dit en Romains 4 qu'il ne forma point de doute, étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis il était puissant pour l'accomplir. La foi veut dire nous savons, je suis assuré. Des certitudes, combien précieuses. Au chapitre 5 encore, il nous est dit au verset 11, et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant reçu la réconciliation. Nous n'attendons pas davantage le moment de la venue du Seigneur pour être réconciliés. Nous sommes réconciliés. Nous savons bien, si on voulait s'étendre sur ce beau sujet de la réconciliation, qu'elle revêt deux aspects, réconciliation des personnes, réconciliation des choses. À la différence que les personnes, l'homme, doit être réconcilié, il doit être aussi justifié parce que l'homme est coupable. En revanche, la création, qui n'a pas péché, mais qui subit les conséquences du péché introduit dans le monde par l'homme, n'a pas à être justifiée, elle doit être purifiée. C'est la différence entre l'homme et la création. Mais la réconciliation se déploiera à l'égard de toute chose. Les types de l'Ancien Testament sont là pour l'attester. Et la réconciliation dans son ensemble ou dans l'entier de son application est acquise. Nous savons bien que l'œuvre de Christ, par l'œuvre de la croix, tout est acquis, mais tout n'est pas produit. Le Seigneur n'a pas besoin de revenir sur cette terre et n'accomplira pas une autre œuvre pour que nous soyons glorifiés, pour que nous soyons introduits dans la maison du Père, pour que les nouveaux cieux et la nouvelle terre soient produits sur la scène. Ces choses ne sont pas produites, elles ne sont pas réalisées, mais elles sont acquises. Et la réconciliation de la terre, de la création, elle n'est pas encore produite. La création, tout ensemble, nous dit Romains 8, gémit sous les conséquences du péché de l'homme. Bientôt, elle sera affranchie. Mais la réconciliation, cet affranchissement de la création est acquis, même s'il n'est pas produit. Mais quant à nous, créatures, qui en raison de notre nature, pécheresse opposée à la nature de Dieu, consciemment coupable, il y avait un conflit. Ce conflit, pour la foi, il est réglé. Il a été réglé par le sang de Christ. Nous sommes maintenant réconciliés. Ce sont ces choses qui donnent les certitudes desquelles la foi s'empare avec reconnaissance et avec louange. Nous sommes maintenant réconciliés. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de distance. Nous sommes approchés. Nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé. C'est la condition présente du racheté. Le Seigneur nous donne d'en avoir toujours plus la réalité présente dans nos affections. Il en résultera sans doute et la louange et un plus vif attachement. Nous sommes maintenant réconciliés avec lui. Au chapitre 8 de la même épître aux Romains, il nous est dit, ils sont tous ces passages heureusement par cœur, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ce passage, ce chapitre si merveilleux de cet épître aux Romains, où nous avons ces trois certitudes desquelles la foi s'empare. Maintenant, aucune condamnation. La certitude de ne jamais être condamné. Le tribunal de Christ ne sera pas une condamnation. Ensuite, nous avons la deuxième certitude au verset 33. Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui est celui qui condamne. Nous sommes maintenant justifiés par le sang de Christ. Qui pourrait donc nous condamner devant Dieu? Impossible. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est dans le Christ Jésus. Nous sommes maintenant justifiés. Qui pourrait donc nous accuser devant Dieu? Personne. C'est Dieu qui justifie, qui est celui qui condamne. Et la troisième certitude qui clôt le chapitre, je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Quel partage que celui de ma foi. Pas de condamnation, pas d'accusation, pas de séparation. Il devrait en résulter dans nos cœurs une constante louange, une permanente adoration. Et encore, si nous pensons à l'adoration, ce culte rendu en esprit et en vérité, certainement que l'adoration se poursuivra et constituera l'activité des saints glorifiés, éternellement. C'est du reste la seule activité qui subsistera. La louange. Nous sommes faits un peuple d'adorateurs, de sacrificateurs, c'est le résultat de l'œuvre de Christ, un des multiples résultats, mais cette pensée de Christ à l'égard de Dieu son Père, selon le désir du Père qui cherche des adorateurs, il nous a fait cela pour son Dieu Père. Attendons-nous d'être glorifiés, être dans le ciel pour adorer, pour louer, pour présenter cette louange, cette reconnaissance? Certainement pas. Que dit le Seigneur au puits de Sichar lorsqu'il s'adresse à la Samaritaine? Le Père, remarquons, il n'est pas dit Dieu, le Père, car il faut être en relation véritable, comme enfant de Dieu, pour pouvoir adorer. Le Père cherche des adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. Et est-ce qu'il va lui dire, eh bien, le jour viendra. Peut-être est-il encore lointain, mais le jour viendra où ce culte pourra être rendu. Il ne dit pas cela. L'heure vient, et elle est maintenant. Maintenant. Soulignons ce maintenant en rapport avec l'adoration rendue en esprit et en vérité. L'heure vient, elle est maintenant. Elle va résulter de l'œuvre de Christ. Il est sur le point de l'accomplir. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, il nous est accordé ce service le plus élevé, le plus précieux d'adorateur. Le Père cherche, remarquons-le, avant toute chose, les adorateurs. Il forme, il appelle et il forme les serviteurs, mais il cherche des adorateurs. Et le Seigneur, par son œuvre, amène à son Père un peuple d'adorateurs. Il nous a fait pour son Dieu Père, déjà maintenant, des sacrificateurs, des adorateurs. Dans le même, dans ce chapitre 6 de l'Épître aux Romains, nous avons au verset 22 un autre maintenant qui est d'abord tout un ensemble de richesses qui sont le partage de la foi. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez pour fruit, dans la sainte, votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Maintenant affranchis du péché. Nous ne pouvons pas entrer ce soir dans ce vaste et précieux sujet de l'affranchissement. Nous savons bien, nous le disons simplement en passant, que si le salut, la réception de Christ comme sauveur, peut être instantanée, on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de Satan à Dieu, ce peut être instantané. En revanche, l'affranchissement de tout ce qui pourrait constituer des obstacles à la jouissance de ces choses, et surtout de cette personne, c'est alors une expérience progressive et qui se poursuit pendant la vie chrétienne. Mais nous sommes déjà affranchis dans le sens que nous ne sommes plus les esclaves du péché, contraints à pécher. Par l'œuvre de Christ, nous sommes maintenant affranchis du péché. Et notre, à quoi nous sommes-nous asservis maintenant? À Dieu. Nous étions asservis au péché. Maintenant, nous sommes asservis à Dieu. L'affranchissement, c'est l'effet libératoire de l'œuvre de Christ. Nombreux sont les domaines desquels nous avons à être affranchis, nous le savons, affranchis du monde, affranchis de la chair. Mais l'affranchissement le plus difficile, n'est-ce pas, d'être affranchi de soi-même. L'apôtre Paul l'a réalisé d'une manière extraordinaire. Lorsqu'écrivant aux Corinthiens, il peut dire « Je ne suis rien ». Remarquons que si l'apôtre Paul parle de ce que la grâce de Dieu lui a donné à connaître, l'extraordinaire des révélations que Dieu, le Seigneur, lui accorde, notamment par rapport avec l'Assemblée, le mystère caché des siècles en Dieu. Jamais il amoindrira la valeur de telle révélation que la grâce lui a faite. Bien au contraire, il parle de ces choses comme étant l'extraordinaire des révélations. Mais quant à lui-même, il peut dire « Je ne suis rien ». C'est l'affranchissement de soi-même. Et c'est certainement le dernier degré auquel le croyant peut parvenir et est appelé à parvenir. Qui saurait le prétendre? Affranchi de soi-même, affranchi du monde, du péché, de la chair, de tant d'autres choses encore, mais affranchi de soi-même. Mais nous sommes maintenant, par l'œuvre de Christ, c'est une réalité liée à l'œuvre de Christ que cet effet libératoire, mais ce qui est placé devant nous, c'est la mesure dans laquelle nous sommes appelés à le réaliser et par conséquent à en éprouver tout le bénéfice. Dans le chapitre 11 de cet épître aux Romains, nous avons un autre maintenant, sauf erreur. Et au verset 30, « Car comme vous aussi, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, etc. Vous êtes maintenant devenus des objets de miséricorde. Y a-t-il de quoi se glorifier? Si tout ce que nous sommes par la grâce de Dieu maintenant déjà remplit nos cœurs de reconnaissance, avons-nous quelque mérite? Aucun. Nous le devons à la grâce de Dieu, parce que nous sommes des objets de miséricorde, des vases de miséricorde. Son cœur a vibré face à notre misère, de telle manière que maintenant déjà, par la foi et dans le Christ Jésus, nous sommes faits ce que nous sommes. Dans le chapitre 16, on a alors cette évocation, pour rester dans le chapitre, de ce dont nous avons déjà parlé, lorsque l'apôtre peut dire au verset 25, « Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui a été maintenant, qui a été manifesté maintenant, et qui par des écrits prophétiques a été donné à connaître à toutes les nations selon le commandement de Dieu éternel, etc. » Un silence a été gardé durant des siècles, pour ne pas parler de millénaires, au sujet du propos de Dieu à l'égard de Christ, au sujet de ce propos selon lequel il voulait faire des noces pour son Fils, et selon ce qu'il voulait pour son Fils, le Seigneur s'est acquis lui-même cette épouse, et nous sommes les bénéficiaires d'un tel décret divin de la part du Père à l'égard du Fils. Remarquons que nous ne sommes pas la première pensée de Dieu. La première pensée de Dieu a son Fils pour objet, et la première pensée de Christ a son Père pour objet. Mais nous sommes les bénéficiaires de ces pensées divines. Mystère à l'égard duquel il était maintenu le silence, il était gardé, mais maintenant, il est révélé. Nous avons l'intégralité de la révélation des pensées de Dieu, et il nous est accordé maintenant de connaître ce que Dieu s'était proposé et ce que le Seigneur s'est plu à révéler par le canal, principalement, de l'apôtre Paul. Dans l'épître qui suit, nous en aurions aussi des maintenant, nous pensons au celui du chapitre 12 en rapport avec le corps de Christ, où il nous est dit, au verset 18, « Mais maintenant Dieu a placé dans les membres chacun d'eux dans le corps, comme il l'a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps un. » Nous savons tous que seul l'apôtre Paul nous parle du corps de Christ, cet ensemble indivisible constitué par tous les croyants unis par le baptême d'un seul esprit, au jour de la Pentecôte, mais qui se perpétue sur la terre, cet organisme divin, non pas une organisation, cet organisme divin duquel il est la tête glorifiée dans le ciel, et qui est représenté ou constitué par tous les membres, tous les croyants qui sont, à quelque moment que ce soit, sur la terre. Le corps étant vu comme existant et fonctionnant sur la terre. Et il nous est dit dans ce passage, « Maintenant Dieu a placé les membres dans le corps, comme il l'a voulu. » Ce n'est pas dans le ciel que les croyants occuperont ou rempliront ses fonctions en qualité de membre du corps de Christ. C'est sur la terre. Et la grâce de Dieu accorde à chaque croyant d'être un membre de cet ensemble indivisible, cet organisme duquel le Seigneur est la tête glorifiée dans le ciel et qui est appelé à fonctionner harmonieusement sur la terre. Ce n'est pas le fait qu'un croyant le sait, qu'il est un membre du corps de Christ, qui fait qu'il en est un. Mais passant par la nouvelle naissance, étant né de nouveau, étant un enfant de Dieu, il est un membre du corps de Christ, même s'il l'ignore. Bien sûr que s'il l'ignore, il n'en remplira pas les fonctions. Mais il est un membre du corps de Christ. C'est un titre comme celui d'enfant de Dieu, qui est accordé au racheté du Seigneur lorsqu'il vient à Christ. C'est une révélation donnée à l'apôtre Paul dont il parle en premier dans l'Épître aux Romains, et maintenant que nous sommes sur la terre, comme croyants, comme enfants de Dieu, nous sommes des membres du corps de Christ. Et nous connaissons l'ensemble de l'enseignement que développe l'apôtre, tout particulièrement dans ce chapitre 12, et la question qui se pose à nos cœurs, avec la reconnaissance qui doit l'accompagner, c'est quelle est la fonction que la grâce du Seigneur m'accorde de remplir dans ce corps en vue de son fonctionnement, en vue de sa prospérité, en vue de sa santé spirituelle. Demander au Seigneur qu'il nous accorde maintenant que nous sommes sur la terre d'être des membres utiles. Remarquons qu'il n'est pas dit que le membre choisit sa fonction ou sa place, comme le développe, il prend le confrère comme exemple. Le Seigneur n'a pas choisi sa place, pas pour le cœur. C'est le Créateur qui a placé les membres dans l'organisme humain. C'est le Créateur du corps de Christ qui place les membres comme il l'a voulu, et un peu plus avant, nous pourrions lire comme il lui plaît. Selon sa sagesse, selon sa volonté. Comme il a voulu, comme il lui plaît, qui nous donne de discerner la fonction que le Seigneur nous confie à chacun. Elle peut être très visible, elle peut être très effacée, peut-être la seconde plus précieuse que la première. Mais afin qu'elle contribue à plaire à celui qui l'a donné, comme il lui plaît, et qu'elle contribue à la santé, à la prospérité, à l'harmonie de l'ensemble tout entier. Mais nous sommes maintenant membres du corps de Christ. Et il est ajouté, mais maintenant les membres sont plusieurs, mais le corps un. Remarquons qu'il n'est jamais dit qu'une assemblée locale est un membre du corps de Christ. C'est une expression de ce corps dans la localité. Mais les membres sont individuels. Nous sommes faits cela maintenant. Nous avons besoin de toute la grâce pour réaliser quelque peu, pour jouir quelque peu de ce que ces immenses richesses de son amour nous accordent présentement déjà. Nous fixons nos regards sur l'avenir avec confiance et reconnaissance. Nous attendons le Seigneur avec impatience, mais qu'il nous donne déjà, en attendant, de réaliser, de jouir, d'apprécier ce qu'il nous accorde maintenant, des choses de la plus haute valeur. Pour cela, nous avons ce qui demeure maintenant, fin du chapitre 13. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Avons-nous besoin de ressources plus précieuses? Ce sont les ressources qui émanent du cœur divin. Elles sont toujours abondantes, elles sont toujours suffisantes. Elles sont toujours accessibles. La foi, l'espérance et l'amour. Bientôt, la foi prendra fin. Bientôt, l'espérance se réalisera. Mais l'amour demeure éternel. Terminons par un passage dans l'épître de Jean, la première épître. Chapitre 3 de la première épître. Voyez. De quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque à cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Ce seul passage place devant nous ce que nous sommes maintenant et ce que nous serons tout à l'heure, mais que nous ne sommes pas encore. Nous avons vu ce que nous étions par nature. Quelques passages ont placé devant nos cœurs ce que nous sommes présentement. Et nous sommes maintenant enfants de Dieu, engendrés de Dieu. Et comme tels, nous participons de la nature divine, car on participe toujours de la nature de celui qui nous a engendrés. que ce soit le premier, que ce soit le second homme. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, l'apôtre qui a su apprécier le sein du Seigneur sur lequel il s'est incliné, peut nous dire comme une explosion de son cœur, voyez de quel amour. Y a-t-il un amour plus grand? Voyez de quel amour le Père nous a fait donc que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes maintenant. Nous attendons ce que nous serons tout à l'heure, lorsque le Seigneur viendra, lorsque cette bienheureuse espérance trouvera sa glorieuse, éternelle, céleste réalisation. Alors, il transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir même toutes choses. Transformation, transformation totale, instantanée. Maintenant, par le gratuit, nous pouvons connaître la transformation progressive dont parle 2 Corinthiens 3. Contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. C'est un développement spirituel progressif qui résulte de sa contemplation. Mais ici, c'est la transformation immédiate, instantanée, définitive et sans retour. Il transformera le corps de notre abaissement, nos corps d'infirmité, nos corps qui connaissent si facilement et rapidement la décrépitude, pour les rendre conformes à l'image de son Fils. Nous savons, c'est une des certitudes encore de la foi, que quand il sera manifesté, nous lui serons rendus semblables, car nous le verrons comme il est. Les deux choses vont ensemble, être semblables à Christ et le voir comme il est. N'avons-nous pas là comme un reflet de cette évocation de Jean 17, où d'une part nous partagerons la gloire du Fils de l'homme, nous lui serons semblables, et nous contemplerons la gloire du Fils éternel, nous le verrons comme il est. Que cette espérance ranime nos cœurs, nous encourage dans le chemin, nous fortifie notre foi, et surtout, attache nos cœurs à lui dans l'attente de son retour.